Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Il est capable, Dieu.
Ce matin, nous adorons ce Dieu capable. Ce matin, nous l'acclamons même. Ce matin, nous reconnaissons que nos vies sont gérées et sont entre les mains d'un Dieu capable. Un Dieu capable. Mais ce matin, nous prions aussi que le Dieu capable puisse nous parler. Et qu'il nous communique une partie de sa capacité. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tout le monde. On s'excuse, ça ne dépend pas de nous d'avoir cette église assez compartimentée où les uns sont d'un côté et de l'autre. Et puis, quand je vois les spectacles là au fond, à gauche, c'est pas, j'aimerais dire, pas comme une formule consacrée, mais indépendamment de notre très bonne volonté. J'aimerais nous inviter à lire deux portions. Apocalypse au chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Nous lirons du verset 7 au verset 13. Apocalypse 3, 7 à 13. Et nous lirons aussi Exode au chapitre 6 et les deux versets 2 et 3. Exode 6, 2 à 3. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent du juif et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Exode au chapitre 6, les versets 2 à 3. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. » Amen. En ces tout premiers dimanches de l'année 2013, Dieu m'a mis à cœur de parler sur le thème, le Dieu de l'Église de Philadelphie. Le Dieu de l'église de Philadelphie. Et je prie que Dieu nous donne le temps, quand on aura fini d'avoir un petit moment où nous pouvons soit nous mettre à genoux, soit nous coucher, soit nous lever. Mais bref, avoir un petit moment d'intercession. Je dois vraiment avouer que ce message m'a été imposé. Je vous le disais déjà depuis les dimanches passés, j'ai commencé une série que je voudrais poursuivre. Mais il m'a dit, parle de cela. Parle de cela parce que c'est ce que je veux imprimé dans le cœur de mon peuple. Pourquoi cette thématique? Pourquoi ce thème? Et surtout, pourquoi ce thème en tout début d'année? La première raison, c'est nous rappeler pour celles et ceux qui le savent et qui peut-être l'ont oublié, nous rappeler qui nous sommes à ses yeux. Qui nous sommes à ses yeux. Nous ne nous appelons pas n'importe quelle église, nous appelons centre missionnaire Philadelphie. Je peux revoir et l'endroit et l'heure et le jour où en novembre 2007 à Brazza, alors que j'étais en train de rechercher la volonté de Dieu, Seigneur, dois-je finalement commencer quelque chose? Et non seulement elle a imprimé cette pensée, mais puis finalement il m'a donné le nom. Ça s'est imposé dans mon cœur et je lui ai demandé pourquoi. Et il m'a amené à ouvrir les livres d'Apocalypse. Et quand j'ai ouvert, j'ai essayé d'étudier cette église. J'ai dit, Seigneur, permets que quand cette église va commencer, que tout ce qui est mentionné en rapport avec cette église puisse être notre partage. Et j'aimerais, en ce dimanche, les tout premiers de l'an 2013, que nous puissions avoir conscience que nous sommes en alliance avec Dieu. Et qu'il y a des clauses attachées à notre appartenance. Combien de choses qui sont à notre disposition, mais par ignorance, nous ne les avons pas et nous ne jouissons pas. Non pas parce qu'elles ne sont pas là, mais elles sont là, mais parce que nous n'avons pas conscience. Plaise à Dieu que nous puissions connaître quels sont nos droits et que nous puissions en jouir. Il arrive des fois, nous sommes plus conscients de nos devoirs et moins conscients de nos droits. Et pourtant, nous en avons. Deuxième raison pour laquelle il m'a imprimé cet enseignement en ces jours, c'est nous rappeler la spécificité de son alliance avec nous. C'est-à-dire les privilèges qui sont les nôtres. Les choses qui ne pourront jamais nous arriver. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la hauteur et les degrés de l'adversité. Il devait être conscient de cela. Il y a des choses que Dieu dit, mais il est bon que nous puissions nous approprier cela. Dieu peut dire, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mais c'est à toi aussi de t'approprier cela. Et combien de fois l'attitude compte beaucoup. Quand Dieu donne certaines promesses à son serviteur Jérémie, il lui dit, ne tremble pas. Ne te mets pas à perdre confiance. Et il le menace en disant, si tu trembles, moi, je te ferai trembler devant eux. C'est à toi de saisir cela et de croire. Il y a des spécificités. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes église, mais nous sommes Philadelphie. Et en étant Philadelphie, il y a certaines choses qui sont attachantes. Moi, il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur non pas parce qu'il n'y a pas d'adversité ou il n'y a aucune adversité forte, mais j'ai conscience que dans l'alliance, Dieu m'a promis qu'il n'y aura aucune adversité victorieuse. Adversité, il y aura à un degré élevé, mais j'ai conscience. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Et ces deux textes sont glorieux. Et quatre choses frappent à la lecture, surtout du premier texte. Cette lettre adressée à l'église de Philadelphie. Quand il est dit écrit à l'ange de Philadelphie, c'est pas un ange comme un être spirituel. L'ange, ça veut dire messager. On peut même dire écrit au pasteur. Écrit à celui qui a la responsabilité spirituelle. Mais comme je disais, quatre choses frappent à la lecture de cette lettre et donc la possibilité d'apprendre beaucoup. La première des choses qui frappe en lisant cette lettre, c'est la manière dont le Seigneur se présente à cette église. Il se présente sous cinq traits significatifs, instructifs, sur lesquels je ne voudrais pas trop m'attarder, mais qu'il y a des choses à dire sur chacun des traits. Il se présente comme étant le saint, celui qui n'aime pas la souillure, celui qui est mis à part. Deuxièmement, il se présente comme étant le véritable, en contradiction avec les faux, les galvaudés. Troisièmement, il se présente comme celui qui tient la clé de David. Et là, il veut parler de celui qui a l'autorité, mais l'autorité suprême. Et quand il est parlé de la clé, il est parlé de celui qui a la capacité d'ouvrir. Et les clés en époque, quand on en parlait, il y avait de petites clés, mais il y avait aussi des grandes clés. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 22, verset 22, on parle même d'une clé que l'on pouvait mettre sur l'épaule. Pour montrer combien elle était grande. Pourquoi? Parce que les villes de l'époque étaient entourées de grandes murailles. Et à l'entrée, il y avait une porte. Et à cette porte, il y avait une grande clé que l'on utilisait pour soit donner accès aux gens qui veulent rentrer ou pour sortir. Il dit, je suis celui qui détient la clé. J'ai l'autorité, mais l'autorité suprême. Quatrième façon dont il se présente à cette église, il dit, je suis celui qui ouvre. et personne ne peut fermer. Quand il dit j'ouvre, il veut dire je suis celui qui donne accès. Je suis celui qui accorde les opportunités. Je suis celui qui permet que nous puissions avoir. J'aimerais dire, seul Dieu a cette capacité dans notre vie. Et je prie qu'en cette année 2013, Dieu se manifeste dans votre vie comme celui qui ouvre les portes. Et ce que j'aime, il dit, celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Quand il dit personne ne peut fermer, c'est pas qu'il n'y aura pas tentative, mais il n'y aura aucune tentative victorieuse. J'aimerais en ce dimanche matin, le tout premier de cette année 2013, que tu intériorises cela. Que tu puisses déclarer cette année, Dieu ouvrira des portes pour moi et personne ne pourra les fermer. Et je viens de déclarer, tu vas les vivre. Cette année, tu n'expérimenteras pas n'importe quel Dieu, tu expérimenteras le Dieu de Philadelphie. C'est lui qui tient la clé, c'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer. En famille, personne ne pourra les fermer. Au travail, personne. En politique, personne. Là, dans les, au barreau, personne. À la magistrature, personne. Au grand marché, personne. Il ouvrira. Et personne ne pourra fermer. Ça, c'est l'alliance de Dieu avec son peuple de Philadelphie. Les autres peuvent l'avoir comme appendice, mais nous l'avons comme repas central. Et il ouvrira et personne ne peut fermer. Tape-toi la poitrine, dis, personne ne pourra fermer ce que Dieu va ouvrir. Mais cinquième aspect de la présentation, il dit, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Cela veut dire celui qui nous protège, celui qui veille sur nous, celui sur qui l'on peut compter. Il veut parler de la vraie sécurité. Quelquefois nous avons peur alors qu'il dit, quand moi je ferme, hein, laisse, même s'ils viennent avec des burins, même s'ils viennent avec des bulldozers, à moins que ce soit un homme qui a fermé, si c'est moi, aucune de leurs tentatives ne sera victorieuse. Quelquefois, nous avons ce sentiment un peu comme les cancrelats. Les cancrelats qui est bien protégé dans une bouteille et qui voit un coq s'avancer. Sa visibilité l'empêche de voir qu'il est bien protégé et il tremble. Aide-moi à dire à ton voisin, Lingala Obanga gagne. Bien protégé. Je suis protégé. Je suis blindé. Je suis blindé. J'ai la ferme assurance. Même si quelqu'un se tenait devant moi maintenant avec un revolver, s'il tire, ça ne va pas me toucher. Et même au pire des cas, ça va se retourner, ça va retour à l'envoyeur. Celui qui ferme, et personne ne peut ouvrir. S'il te fait rentrer à un poste et il ferme, personne ne le prendra. S'il t'accorde une promotion, t'accorde une place, s'il ferme, personne. Qu'ils aillent je ne sais où. Qu'ils aillent trouver mort, mort ou vie, vie. Qu'ils aillent à Tchela trouver courte joie. Rien ne se fera. Il ferme et personne ne peut ouvrir. Philadelphie, j'aimerais vous dire pour vous, en cette année, il y aura des batailles, mais sachez qu'il a fermé et personne ne peut ouvrir. Personne ne peut ouvrir. Dans tes affaires, personne ne pourra ouvrir. Dans ces marchés qu'il veut t'accorder, personne ne pourra ouvrir. C'est comme ça que le Dieu de Philadelphie, pas n'importe le Dieu de Philadelphie, j'aimerais te dire, connais ton Dieu. Et connais l'alliance qui te lie à lui. Saint, véritable, mais celui qui tient la clé. Tiens la clé, c'est pas entre les mains de quelqu'un. Et j'aime, il va plus loin. Dans, par là, son peuple dit, je te donne même la porte de tes ennemis. Donc tu as la possibilité de les bloquer, de réduire leur motion, de réduire leur mouvement. Aide-moi à dire à ton voisin, tu es fort. J'aurais voulu être italien pour te dire, tu es fortissimo. Tu es fortissimo. Tu es tellement fort. Mais le problème, c'est que quelquefois, tu l'ignores. Tu es bien plus que ce que tu crois que tu es. Tu es bien plus que ce que tu penses. Et en cette année, intériorise cela. Tu ne marches pas avec n'importe quel Dieu. Le Dieu de Philadelphie. Le Dieu de Philadelphie. Cette présentation en elle-même nous enseigne beaucoup de choses. La première des choses que cette présentation nous enseigne, c'est que, un, nous avons un même Dieu que nous partageons certes avec les autres, mais qui se manifeste à nous différemment. C'est le même Dieu que nous partageons avec les autres, mais qui se manifeste à nous différemment. Les gens peuvent même avoir l'impression, est-ce le même Dieu? J'ai écouté un frère un jour, il regardait quelqu'un de l'église, il voyait comment Dieu les bénissait, il dit, oui, j'ai l'impression que ces prières vont à Dieu, les miennes vont chez l'ange Gabriel. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas les clauses de l'alliance. Quand on ne connaît pas les clauses de l'alliance, on peut avoir l'impression que Dieu fait du favoritisme. Mais c'est simplement la manière dont il s'est engagé avec quelqu'un. Deuxième chose que cette présentation nous enseigne, c'est que sa manifestation est liée à la spécificité de nos besoins, de nos problèmes, de nos défis. Dieu ne se manifeste pas à nous tous de la même manière. À la fin, je montrerai cela quand je montrerai les promesses que Dieu fait à cette église de Philadelphie, mais attachées aux défis et aux problèmes que ce peuple connaissait. Dans Matthieu chapitre 6 au verset 9, lorsque Jésus veut apprendre à ses disciples de l'époque, mais à nous aussi par extension, comment prier, j'aime. Il voulait leur faire comprendre que nous avons un même Dieu que nous partageons avec les autres, même s'il manifeste, il se manifeste différemment. Il dit, lorsque vous priez, vous devez dire « Notre Père ». Il n'a pas dit « Dites mon Père ». Il a dit « Dites notre Père ». C'est-à-dire, à part le fait qu'il soit avec, pour nous, il est aussi le Dieu. C'est notre Père. Nous le partageons avec d'autres personnes. Ce n'est pas notre exclusivité. D'autres aussi prient et s'attachent au même Dieu. Si nous avons les deux chapitres d'Apocalypse 2 et Apocalypse 3, tous les deux chapitres, bizarre, il se présente à cette église, mais bizarrement, la présentation n'est pas la même. Et pourtant, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Pourquoi? Parce que les besoins ne sont pas les mêmes selon les églises. À l'église d'Éphèse, il dit, voici celui qui tient les sept étoiles à sa main droite, et celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Est-ce qu'il cesse d'être cela? Mais quand il parle à Smyrne, il dit, je suis le premier. Et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, mais différent d'Éphèse. Est-ce un Dieu différent? J'aime beaucoup, j'aimerais vous encourager. J'ai réécouté des extraits cette semaine d'un merveilleux séminaire que le pasteur Atoms nous a donné ici, parlant de Dieu, montrant combien, quand Dieu se manifeste dans une certaine forme, il ne cesse pas d'être l'autre forme. L'autre forme ne disparaît pas. Vous savez, nous devons être des ruminants spirituels. Certaines choses, nous pensons que nous avons intériorisées, mais combien il est bon de réécouter cela. J'aimerais vous encourager, réécouter ce séminaire, il est hyper, hyper, hyper riche. Cette semaine, j'ai fait les scripts. J'ai dit, pourtant, j'étais là les 4 jours. Non, j'étais 3 jours. Il y a un jour, je me suis absenté. Mais j'ai dit, mais ça, je n'avais pas entendu. Comme quoi, des fois, quand on est assis là, on ne capte pas tout. Les temps que les pasteurs disent quelque chose, tu émets un commentaire auprès de ton voisin. 2-3 vérités passent et tu penses que tu as tout capté. Et là, j'ai réécouté, j'ai dit, waouh! La manière dont il se présente à Éphèse, c'est différent de la manière dont il se présente à Smyrne. Et quand il arrive à Pergame, il dit, celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Mais c'est lui toujours le même qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Pour Éphèse, mais pas pour Smyrne. Quand il arrive à Thyatire, il se présente comme le fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme des flammes de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. À l'église de Sardes, il dit celui qui a les 7 esprits de Dieu, les 7 étoiles. Quand il parle à Laodicée, il dit, je suis l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Le fait pasteur Vernon disait que notre Dieu était un diamant à plusieurs facettes. Nous ne pouvons pas cerner tout son contour. On raconte l'histoire de ces 3 aveugles qui n'ont jamais vu l'éléphant de toute leur vie. Et puis on a amené un éléphant gigantesque. On leur a dit, allez palper, toucher l'éléphant. Et dites-nous, l'éléphant c'est quoi? Le tout premier s'est avancé. Il a touché. Il avait l'impression que c'était infini. On lui a dit, l'éléphant c'est quoi? Il dit, l'éléphant c'est un mur infini. Le deuxième est allé, et le comble, c'est qu'il est tombé au niveau, comment on appelle ça? Et quand il a touché la trompe, il a dit, oh, l'éléphant, c'est comme un tuyau. Le troisième, il est allé, il a touché au niveau des jambes, il a dit, oh, l'éléphant, c'est comme des colonnes. Est-ce que l'éléphant, c'est seulement un mur? C'est seulement un tuyau? C'est seulement des colonnes? Chacun a eu une petite révélation. Mais en fait, l'éléphant était un peu tout ça. Des fois, nous connaissons une petite partie de Dieu. Une infime partie. Et des fois, que lui seul permet que nous puissions connaître. Dans Exode chapitre 3, au verset 14, ainsi que dans Exode 6, verset 2 à 3, que nous avons même déjà lu tout au début, ces deux passages sont un peu complémentaires et qui nous apprennent une vérité importante. C'est que c'est Dieu dans sa souveraineté et selon notre besoin qui décide de se présenter à nous sous une certaine forme. Dans Exode chapitre 3, verset 4, en Égypte, où il y avait une multiplicité de divinités, aux petites spécialités limitées, il ne veut pas se mettre dans la course, mais il se place au-dessus du lot. Quand Moïse lui pose la question, si jamais je veux me présenter à ce peuple qui est certes juif, mais qui désormais dans sa culture est totalement égyptienne, ils me poseront la question, qui est l'Éternel? Parce que les divinités en Égypte étaient spécialisées dans des petites choses. Le Dieu de la pluie, le Dieu de la fécondité. Donc il n'y avait aucun Dieu qui était capable de faire. Alors ce qu'il veut dire, quand j'irai là-bas, on me posera la question, le Dieu que tu nous amènes, il est spécialiste en quoi? Parlez-nous de sa spécificité. Et j'aime la réponse de Dieu. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il a donné une réponse grammaticalement incorrecte. Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Quelle présentation. Dis à ton voisin, notre Dieu, c'est Jésus. Quand il parle comme ça, il veut dire, quand il dit Jésus, il dit, seul je me connais moi-même. Mais il veut aussi dire, je serai tout ce qui me plaira d'être à chaque moment. Jésus, c'est lui qui se plaît à être tout ce qui lui plaît. Comme le pasteur Atom l'a dit, une capacité illimitée. Non, ne va pas leur dire je fais seulement tomber la pluie, parce qu'à part cela, je sais faire disparaître les cancers. Je suis capable de tout. Et c'est ça notre Dieu. Mais écoutez bizarrement, dans Exode 6, verset 2 à 3, la Bible nous montre que c'est lui qui, à chaque période et à chaque moment, décide du volume, de la hauteur, de la révélation. Il dit à Moïse ceci. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. » Mais écoutez ce qu'il dit. « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. » Mais il ajoute, « Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel, El Elyon. » C'est moi qui avais décidé de leur montrer simplement l'aspect El Shaddai. Mais au-delà d'être El Shaddai, je suis aussi El Elyon. C'est parce que vous n'avez pas vu El Elyon que je ne le suis pas. Dieu est bien plus de ce que tu crois qu'il est. Mais avec nous à Philadelphie, il a choisi une spécificité. Et nous allons expérimenter cela. Dans Luc chapitre 8, au verset 25, ils ont marché avec Christ longtemps. Ils l'ont vu multiplier les pains. Ils pensaient que sa spécificité, c'était multiplier les pains, purifier les lépreux, guérir les malades. Jusqu'au jour où leur barque est battue par la tempête, il voit, il s'élève et il parle au vent. Est-ce que le vent a des oreilles? Il dit, vent, tais-toi! Et la Bible dit, le vent se tue. Écoutez la réaction des disciples. Qui est donc celui-ci à qui obéissent même? Le vent. Il découvre un aspect ignoré. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas encore appliqué ça qu'il n'est pas ça. J'aimerais te dire, tu as un Dieu tout-puissant. Un Dieu fort. Un Dieu capable. Et c'est le Dieu de Philadelphie. Dans Apocalypse chapitre 1, versets 13 à 16, Jean qui avait l'habitude de mettre sa tête sur le sang de Jésus de son vivant, découvre un autre Jésus qui n'a rien à voir avec celui qu'il avait connu. Écoutez ce que Jean dit. Il avait une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ce n'est plus le Jésus de la terre. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Jean qui connaissait sa voix dit, sa voix était comme celle des grandes eaux. Et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa splendeur. Mais j'aime le verset 17. Celui qui avait l'habitude de mettre sa tête sur son épaule, là il a une autre révélation. La Bible dit, lui-même dit, lorsque je le vis, j'ai tombé comme mort. Il est bien plus que ce que tu crois. J'allais dire qu'il est multisystème, mais non, je ne le dis pas, sinon je vais le réduire. Il est bien plus que ça. Il peut faire au-delà. Donc la première des choses qui frappe à la lecture de cette lettre, c'est cette présentation. La deuxième des choses qui frappe à la lecture de cette lettre adressée à cette église, sont des informations que Dieu donne à cette église sous forme des choses qu'il est en train de faire. Des choses qu'il est en train de faire. Il y a trois choses que Dieu mentionne qu'il est en train de faire. Mais avant de mentionner ces trois choses, j'aimerais d'abord dire une chose importante qu'il mentionne au verset 8 et qui m'a dit de crier, non pas de dire, de crier à Philadelphie. Il dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Il est dit au verset 8, je connais tes œuvres. C'est-à-dire, je suis au courant de ta consécration. Je n'ai pas besoin d'être informé sur ce que tu fais, en quantité et en qualité. Je suis venu dire à un homme, à une femme, qui travaille de manière ouverte, en coulisses, pour Dieu, Dieu me dit de te dire, il connaît. Il connaît ta consécration. Jeune, qui chante à la chorale, il connaît les sacrifices que tu fais. Des heures de répétition. Des fois, tu sais que tu vas chanter le lendemain, on te présente une bonne sauce bloquée. Du fumboa. Tu regardes, tu dis, waouh, il y a trop de graisse là. Si je prends, demain je vais chanter faux. Dieu me dit de te dire, il connaît. Intercesseur, quand nous on dort, tu te réveilles à 3h du matin, Seigneur, souviens-toi de Philadelphie. Il me dit de te dire, il connaît. Toi de l'évangélisation, tu reviens du travail fatigué. Mardi, mais tu cours quand même à aller visiter par-ci, par-là. Il me dit, il connaît. Responsable des cellules, nous ne voyons pas, nous ne vous vantons même pas du haut de la chair. Mais il me dit, il connaît ton œuvre. Il connaît. Conseiller, quand le culte a fini, moi, les prédicateurs et les autres, nous sommes partis. Mais tu es là en train de parler avec quelqu'un qui est venu pour la première fois. Ou de rendre particulier un message qui était général. Il connaît tes œuvres. Il connaît. Il connaît toi qui travailles au comité. Tu as été au travail depuis le matin à 8h. Tu rentres à 18h, fatigué, tout ton corps te dit, va te reposer. Mais tu as l'obligation de venir assister à nos réunions ectométriques. Qui ne finissent pas avant 22h. Femmes et enfants t'attendent à la maison. Et des fois, ils te voient rarement. J'aimerais te dire, il connaît ton œuvre. Toi qui participes avec ton argent, tu n'as pas le temps. Mais j'aimerais te dire, il me dit aussi de te dire, servir Dieu, on peut le servir aussi. Avec ses moyens. Toi qui rends cet endroit agréable. Vous savez, ce ne sont pas des anges qui viennent rendre cet endroit propre. Ce sont des femmes, ce sont des jeunes filles. Qui des fois passe la nuit piqué par les moustiques. Dieu me dit de vous dire, il connaît votre œuvre. Moniteur de l'école du dimanche, qui avec patience écoutait ses enfants, les accompagnait, il connaît ton œuvre. J'aimerais dire, en ouvrant une parenthèse, j'ai beaucoup de respect pour les moniteurs de l'école du dimanche. C'est l'une des activités nobles à l'église. Moi, j'ai été moniteur 2 dimanches et puis j'ai démissionné. On m'a formé durant 3 semaines, 3 mois. Et le premier dimanche, on m'a placé dans une classe, il y avait les 4 et 5 ans. Et je suis rentré, j'ai commis la bêtise, il y en avait, je pense, une cinquantaine. Là, après 5 minutes, il m'a regardé, il a dit, messieurs, est-ce que je vais aller aux toilettes? J'ai dit oui, j'ai commis l'erreur de ma vie. Quand je lui ai dit oui, 49, on dit, on peut aller aussi aux toilettes. Je me suis simplement rendu compte que mes doigts se sont recroquevillés pour voyager sur leur tête. En même temps, l'ami qui était là était hyper patient. J'ai compris que lui, il avait l'onction pour ça. Vous savez, quand Dieu vous oint pour une activité, il vous donne aussi les capacités nécessaires. J'ai beaucoup de respect aussi pour les membres du protocole. J'étais membre du protocole 3 dimanches. Là, j'ai quand même fait un peu des exploits. Mais j'ai démissionné parce que 3 fois, j'ai failli me battre. Pourquoi? Parce que ça se passe même ici. Je me suis rendu compte que quand les membres du protocole donnent 10 ordres, 7, on ne leur obéit pas. Et ils vous montrent, allez à droite, vous allez à gauche en sifflant. La première personne, la deuxième, et surtout c'était un jeune homme, j'ai commencé à regarder, j'ai dit, mais j'ai quand même 32 ans. Il en a 17 pendant le bon, ça ne veut pas qu'on remonte, il a sauté. Mais les deux qui étaient avec moi, hyper gentils, ça ne fait rien, j'ai dit, ça ne fait rien. Que Dieu bénisse les membres du protocole. Que Dieu vous rende au centuple et au multiple. Il me dit de vous dire, il connaît votre œuvre. Il connaît, il dit, je connais cela. Quelquefois, nous avons l'impression que Dieu ne connaît pas, il connaît. Il y a un temps où nous sèmons avec labeur, mais il y a un temps où il nous fait moissonner. Et il m'a dit de vous déclarer que non seulement vous, mais vos enfants vont moissonner. Les enfants de vos enfants vont moissonner. Il n'y a pas meilleur patron que Dieu. Il n'y a pas meilleur boss que Dieu. Il y a un jour où Dieu décide, comme à la fonction publique congolaise, de vous faire un rappel. Je me souviens, mon père n'était pas payé durant 38 mois. Et puis un jour, on lui a payé 36 mois. Son sourire, ce n'était pas 32, c'était 30. Parce qu'il avait 2 à 2 dents absentes. Du coup, il y a des jours où Dieu décide de faire un rappel. Dans Hébreux chapitre 6 au verset 10, il dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. L'amour que vous avez témoigné pour son nom, il n'est pas injuste. Il comptabilise cela. Il y a un livre de souvenirs. Écoutez encore ce que 1 Corinthiens 15, 58 dit. Bien-aimés frères, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il ne sera pas vain. Galates chapitre 6 au verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Convenable. J'aime beaucoup l'apôtre Pierre. J'aime souvent dire que c'est l'un des personnages, quand j'arriverai au ciel, j'essaierai de les rencontrer en premier. Ce n'était pas un capitaliste. Ce n'était pas non plus un calculateur, mais c'était un réaliste. Un jour, Jésus-Christ s'est mis à parler à un jeune homme. Après qu'ils aient discuté, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il dit, tu dois faire ceci, cela. Il dit, j'ai déjà tout fait cela. Et puis Christ lui ajoute, va et vends tout ce que tu as. Et puis suis-moi. L'abbé dit, le jeune homme devint tout triste. Et il s'en alla. J'aime ce que la Bible dit. L'abbé dit, Pierre ayant vu cela, il s'approcha du maître et dit, nous qui avons tout quitté pour te suivre, qu'allons-nous recevoir en retour? Ce que voulait dire en lingala, oh petit akouigo salate, biso tout saliango. Est-ce que tu as gagné? J'aime Pierre. Et nous qui avons tout quitté, qu'allons-nous recevoir? Aide-moi à dire à ton voisin, il y a un salaire. Ce n'est pas un capitaliste, ce n'est pas un calculateur. Il dit, y a-t-il un gain? Il y a un gain à servir Dieu. Et Jésus lui dit, celui qui quittera à cause de moi, père, mère, maison. J'aime souvent le dire, il gagnera un dans les siècles présents. Et puis dans les siècles à venir, les centubles. J'aime souvent dire, si vous êtes tellement spirituel, vous voulez seulement dans les siècles à venir, je n'aimerais à Dieu de me donner votre part. Hein, Seigneur, moi je suis tellement saint. Moi je ne veux pas ici seulement au ciel. Moi je serai comme Pierre dans les siècles présents et dans les siècles. Hein, mais si tu refuses dans les siècles présents, Seigneur, donne-moi sa part. Donne-moi sa part. Je connais tes œuvres. Il voit quand tu travailles. Quand la jeune femme était en train de donner son offrande, apparemment minime, les gens n'ont pas vu, mais lui, il a vu. Son œil est fixé sur ce que tu fais. Mais il donne des promesses attachées à cette église. 3. La première, il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Il n'a pas dit qu'une porte existe. Il n'a pas dit, il y a une porte. Il dit, j'ai mis devant toi une porte. Tu verras une porte, tu verras une opportunité, tu verras quelque accès, sache que c'est moi. Il informe sur une chose, mais parle aussi de la situation finale. Il dit, j'ai mis devant une porte, devant toi une porte, personne ne pourra fermer. Ce qu'il veut dire, si je dis personne ne pourra fermer, il est possible qu'il y ait adversité. Sachez une chose, que les portes ouvertes par Dieu n'excluent pas la présence de l'adversité. Souvent nous pensons que tout ce que Dieu initie, l'adversité est exclue. Dans Corinthiens chapitre 16 au verset 9, écrivant aux Corinthiens, Paul sollicite leur soutien dans la prière en ces termes. Écoutez ce qu'il dit. Une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Mais il reconnaît quand même que c'est Dieu qui est ouvert. Pourquoi tu veux t'arrêter à peine il y a un peu d'adversité? Même les hommes du monde, on n'aimerait pas trop s'inspirer d'eux. Mais quelquefois, ils disent des vérités. À vaincre sans péril, en triomphe, sans gloire. J'ai mis devant toi une porte. Et sache que cette porte, rien, ni personne, ne pourra la fermer. La version des semeurs dit, j'ai ouvert pour toi des grandes possibilités d'action. Mais en même temps, il y a beaucoup d'adversité. La deuxième des choses qu'il promet à cette église, parce qu'il est en train de faire cela, il dit, je te donne ceux de la synagogue de Satan. Ah, j'aime ça. Je te donne ceux de la synagogue de Satan. Une autre version dit, je te soumets. Je mets sous ton autorité ceux de la synagogue de Satan. Le mot synagogue veut dire assemblée. J'aimerais que nous sachions qu'il y a des gens qui ne confessent pas la même foi que nous. Et qui travaillent contre nous. Des fois, nous ne voyons pas leurs actions, mais des fois, nous subissons les effets. Mais il dit, je mets sous tes pieds, je te donne ceux de la synagogue de Satan. Aucune adversité dans la sorcellerie, dans la magie, dans quelque loge, ne pourra avoir de la supériorité sur toi. Mais il ajoute toujours à cette église, non seulement voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, il dit, je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Il ne dit pas qu'ils viendront. Il dit, je les ferai venir. Quand tu les verras venir, ils les feront bon gré, mal gré. Mais ils les feront quand même. Et j'aime, il ajoute encore, ils reconnaîtront que je t'ai aimé. Ils reconnaîtront que j'ai une relation particulière avec toi. Je déclare que cette année, ceux qui te combattent la nuit, viendront les confesser les jours. Ils viendront te dire, Tozo Kokayote. J'aime pas souvent parler de moi, mais de temps en temps, j'aime ouvrir des parenthèses. Je me retrouve en 96, quelques mois avant que mon épouse et moi et ma famille puissions aller à Nairobi étudier. Nous étions à un mariage coutumier d'un ami qui exerce des grandes responsabilités dans l'une de nos églises. Il s'est marié coutumièrement ce jour-là. Et je pouvais vous dire, je ne sentais aucun rayonnement, aucun magnétisme spirituel. Un des saisons qui est rentré, j'aimerais pas citer les groupes mystiques auxquels il fait partie, l'un des tout grands qui a pignon sur rue. Il m'a dit, c'est la deuxième personnalité ici au Congo. Et puis la personne venait. Quand la personne est venue, elle m'a salué. Elle est restée quelques 10 secondes. Je ne comprenais pas pourquoi. Et puis elle est passée. Elle a salué deux ou trois personnes. Et puis je l'ai vu appeler mon ami. Vous savez, quand on parle de vous, vous pouvez le sentir. Ils ont parlé, puis ils se sont retournés. 10 minutes après, mon ami est revenu vers moi. Il m'a tapé. Lui, quand il est content, il me tape fort. Il dit, « Tozo nzambe ya solo !» J'ai dit, « Pourquoi ?» Il dit, « Tu sais, quand il a fini de te saluer, il est venu m'a demandé, il fait partie de quelle loge, le monsieur-là ?» Et il me dit, je lui ai posé la question, « Pourquoi ?» Il dit, « Il a un rayonnement fort. » Et je peux vous dire, même là où je suis, je ne sens aucun rayonnement. Mais ce n'est pas parce que je ne sens pas qu'il n'y a pas. Eux, ils le savent mieux que nous. Ils voient des choses que nous ne voyons pas. J'aimerais te dire, ils viendront se prosterner devant toi. Qu'ils aillent à Maluku, qu'ils aillent je ne sais où, ils ne feront rien du tout. Rien du tout. Je déclare cette année, celui qui voudra que tu puisses mourir par une maladie, mourra par les mêmes symptômes. Je déclare cette année, celui qui essaiera de t'empoisonner, il mourra plus vite que ce poison natif. Je déclare qu'en toi, il y a l'antidote de Dieu. Quel que soit l'endroit où on placera le poison, hein, à poignée de porte, climatiseur, n'importe où. Car celui qui est en toi est fort. Je t'ai donné ceux de la synagogue de Satan. Quand ils iront en réunion, la nuit à Ngeba, à Wembonyama, ou je ne sais pas moi, à Kasongolunda, ils verront rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Je peux aller plus loin. Cette année, vous verrez des gens tomber devant chez vous le matin. Il dira, le carburant est fini. Vous aurez des confessions au travail. Quelqu'un viendra te dire, j'ai essayé, je n'ai pas pu. Parce que le Dieu de Philadelphie a décidé de le faire.
Je suis venu déclarer qu'aucun ne touchera aux enfants de ta famille. La grossesse de ta femme ira jusqu'au bout. Celui qui essaiera de la combattre partira. C'est le Dieu de Philadelphie. Ils viendront se mettre à genoux et reconnaîtront que tu as une relation particulière avec Dieu. Et même vont t'encourager et te diront, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Reprenez vos places. Nous avons un Dieu fort. Et souvent, nous ne sommes pas conscients. J'ai relaté cette histoire ici il y a deux ans et demi. On est en 92. Non, 93. Je venais de me marier, ça faisait quelque temps. Je n'ai jamais oublié. Un homme venu de Lubumbashi a tenu un séminaire, un merveilleux séminaire. Et le deuxième jour, alors qu'il était en train de prêcher, il a arrêté la prédication. Il dit, Dieu me dit, plusieurs doivent sortir de la sorcellerie. C'est un des séminaires les plus forts à la borne. Première personne, deuxième personne que je vois s'avancer, une jeune fille qui était très proche de moi, 16 ans et demi, Betty. Je vois Betty s'avancer. Elle parlait un peu plus français. J'ai dit, non, les francophones peuvent être à Yokibiente. Je me suis même avancé pour aller lui parler à l'oreille. Quand je m'avançais, quelqu'un a cru que je répondais aussi à l'appel. Je suis allé dire à Betty à l'oreille, j'ai dit, Betty, parle-moi Bandoki. Elle m'a dit, na Yoki. Et elle a continué à avancer. Dorazandoki. Troublé. Je ne veux pas que tu soupçonnes ton voisin, mais on ne sait jamais. Les sorciers d'hier, ils avaient des indices. Ceux d'aujourd'hui peuvent être tirés à quatre pins. Ils vous parlent un bon français. Alors, tu écoutes ces balivernes? Mais 12 malins. Chaud. J'étais troublé. Et à la fin de la réunion, là où on les avait placés, j'ai soigné la voix. J'ai dit, Betty, osa rando, gabi, asomo. Et puis, il dit, trois fois. Il dit, la première fois, on est venu avec un groupe. Chez toi, à la maison, il y avait un grand fleuve, mais d'eau chaude qui bouillonne, on n'a pas pu rentrer. La deuxième fois, on est venu, on a trouvé un géant habillé de blanc avec une épée. Est-ce qu'un gars n'a écouté? Et la troisième des choses, ça c'était la meilleure. À l'époque, je conduisais la louange et l'adoration à l'église là-bas. Et je n'ai jamais oublié. Je l'ai vu lundi matin, Betty venir me voir, elle était gonflée. Je lui ai demandé, Betty, qu'est-ce que tu es déjà de filer? Ah, quelquefois nous prions avec compassion, sans révélation. Je me suis mis à prier pour Betty. Oh Seigneur! J'ai prié pour elle le lundi, et c'est le mardi de la semaine d'après que tout est arrivé. Mais tu te souviens, le jour où je suis venu avec des filets, il dit oui. J'étais gonflé parce que j'ai échoué dans ma mission contre toi. J'ai dit, ma mission, elle dit oui, oui. Je savais que tu aimais beaucoup les biscuits. J'aimais plus. Et la nuit, on était allé, on a fait un cérémonial. Permettez que j'en parle. Et on a pris ces biscuits, on les a placés dans mes parties intimes. On m'a dit, va distraire les arrange-toi qu'ils mangent sans prier. S'ils mangent, il commencera à te suivre comme un chat. Il voudra aller avec toi n'importe où. Arrange-toi que ce soit un endroit public. J'ai jamais oublié. Et ce dimanche-là, j'ai fini de conduire les cultes. J'ai vu, pratiquement comme vers la porte, Betty qui venait. Vous savez ce qui m'avait intéressé, c'est ce qu'il avait aux mains. J'ai regardé. Oh, Bissikiti. Alingala, ça sonne bien. Bissikiti. Et elle venait. À peine elle est arrivée à 10 mètres, elle me souriait déjà. Un jeune homme, je n'ai jamais oublié, m'a happé à la main. Yarolo, on doit parler, on s'est assis 2 heures du temps. Je voyais simplement le visage de Betty se déformer. Et puis elle est partie. Elle me le dira quand elle est rentrée avec ses biscuits. C'est pourquoi la nuit, on l'a tabassée à cette réunion. Parce qu'elle n'a pas su me faire manger les biscuits. Et moi, le lendemain matin, parce que quelqu'un échouait gonflé, je viens prier, Seigneur. Guéris la défilée. Compassion sans révélation. Mais ce qui m'a plu, c'est que Dieu travaille pour nous sans nous. J'ai compris que ce jeune homme était un ange. J'aimerais nous dire, Dieu nous protège. Dieu nous protège. Dieu nous protège. Dieu nous protège. L'abbé dit, il donnera même des gens en rançon pour nous. C'est ce que notre Dieu est capable de faire. Dieu m'a donné une parole depuis bientôt 5 ans. Que j'aimerais aussi partager. Ça a été d'abord une parole qu'il m'a donnée. Mais depuis quelques semaines, je l'ai partagé à un groupe d'amis. Et là, c'est dimanche matin et midi de vous donner cela. Psaume 41, verset 12. C'est une part qui fait partie de mon alliance avec Dieu. Il dit, je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. C'est une clause de l'alliance que j'ai faite avec lui. Je dis, Seigneur, je connaîtrai que tu m'aimes si tu ne les laisses pas que ceux qui m'en veulent m'écrasent. Et Dieu m'a dit, Roland, que ça quitte ta personne. Que ça devienne aussi l'alliance de ton église. Que mon amour pour eux se voie par ma protection. J'aimerais que tu réclames cela tel que c'est écrit. Dis-le aussi tel que c'est écrit. Lis-le à haute voix. Dis-le encore fort. J'aime ce que la version Darby dit. À ceci, je connaîtrai que tu prends plaisir en moi si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Mais troisième promesse qu'il fait à cette église, il dit, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur ce monde. Je te garderai durant la période des malheurs. Je te garderai au moment du malheur. Mais toutes ces promesses sont faites à une certaine catégorie de personnes. Je n'ai pas fini mon message, je vais m'arrêter là en ce jour. À une catégorie de personnes. Quelle personne? Premièrement, parce que tu as peu de puissance. Parce que tu reconnais que par toi-même, tu n'as pas de capacité. Seuls ceux qui reconnaissent leurs limites reçoivent ces choses venant de Dieu. Mais deuxième des choses que Dieu promet, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Ça montre que c'est une récompense cette année. Si tu veux expérimenter ces choses que j'ai mentionnées, garde la parole de la persévérance. Attache-toi à Dieu comme jamais. Reconnais que par toi-même, tu ne peux rien. Et je saute rapidement, je prends juste les deux dernières promesses qu'il fait à cette église. Merveilleuse promesse. À la fin, il dit à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Deux choses. Il dit, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu. Et il ne sortira plus. Deuxièmement, il dit, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Il dit, premièrement, à celui qui vaincra. Je veux que nous sachions que nous sommes en bataille. À celui qui vaincra, il dit, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu. La ville de Philadelphie a été créée en l'an 150 avant Jésus-Christ par un jeune roi appelé Attalus. Et ce roi avait un frère jumeau. Et par amour pour son frère, quand il a créé cette ville, il a voulu donner le nom de Philadelphia, amour fraternel. Il semble qu'il y avait des pièces de monnaie dans lesquelles on pouvait voir les deux ayant la même taille, habillés de la même manière, ayant le même trait. Ils s'aimaient tellement. Mais cette ville avait une caractéristique, c'est qu'elle était entourée de plusieurs volcans. Et qu'il y avait plusieurs éruptions, plusieurs tremblements de terre. À cause des tremblements de terre, on construisait cette ville, elle était détruite. Et les gens avaient l'habitude, la plupart des fois, quand tremblement de terre il y avait, ils couraient pour sortir au-delà, quasiment de cette clôture des volcans, pour aller à l'extérieur, le temps que ça se calme. Et avec le temps, ils ont commencé même à créer des huttes sur des cases. En ayant deux résidences. Résidence dans la ville où on pouvait bien construire, mais des huttes aussi dehors. Mais ils avaient l'instabilité. À chaque tremblement de terre, ils étaient obligés de quitter la ville pour aller. De l'autre côté, ils faisaient beaucoup de sorties, de telle sorte qu'ils vivaient dans l'instabilité, dans le manque de tranquillité. Mais Dieu qui se révèle selon nos besoins, quand il se révèle à cette église à la fin, il dit, je ferai de toi une colonne. Désormais, tu seras stable. Mais il dit, tu ne sortiras plus. Tu n'auras plus besoin de fuir chaque fois, car je rendrai les choses stables. C'est comme ça qu'il veut se révéler dans ta vie. Mais deuxième promesse qu'il fait à cette église, il dit, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. La ville de Philadelphie a changé au moins de nom 4 fois. Au départ, on l'a appelée Philadelphie. Plus tard, en l'an 7 avant Jésus-Christ, on a encore changé de nom. On l'a appelée Néo-Césarée. Plus tard, encore 2 siècles après, on a changé son nom, on l'a appelée Flavia.
Aujourd'hui même, Philadelphie porte le nom de Al-Sharer. De telle sorte que les gens disent, ceux qui s'étaient éloignés de cette ville, à un moment, quand ils reviennent, ils ne savent plus comment ça s'appelle. Un peu comme ça arrive, des fois ici chez nous. Les avenues d'Ouambo deviennent 24 devient, bien que ça soit difficile toujours. Je me souviens quand j'étais à Nairobi, quelqu'un m'a fait rire. Il m'a appelé au téléphone, il dit, ici Roland, Tozongi Congo. Ma Zagnon sera remplacé par Bako. Il dit même Zandre comme Kondo. Ceux qui sont des Bukavu, vous savez, il y a les frétins là-bas qu'on appelle Sambaza. Quand le pays a changé, c'est devenu aussi Sambako. Les amis des Bukavu, aïe. Mais il dit, je donnerai un nom nouveau. Il dit, désormais les noms ne changeront plus. Je donnerai un nom, le nom de mon Dieu. Et ça sera un nom qui va rester. Parce que ça sera bon à l'auteur. C'est dimanche. Alors que nous avons nos têtes baissées, j'aimerais que nous puissions déclarer les clauses de l'alliance de Dieu de Philadelphie pour cette année. Le saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. En parlant à Philadelphie, il a dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Parlant à cette église, il a dit, je t'ai donné ceux de la synagogue de Satan. Je t'ai donné les occultistes. Je t'ai donné les magiciens. Je te les ai donnés. Ils viendront se prosterner à tes pieds. Et ils reconnaîtront que je t'ai aimé. Mais il dit aussi, et ça j'aime, je ferai de toi une colonne. Dis au Seigneur, j'en ai assez de l'instabilité. J'en ai assez de rester à un endroit et de retourner. Je veux la stabilité. Je ferai de toi une colonne et tu n'en sortiras plus. Mais il ajoute aussi, je te donnerai un nom nouveau. Alors que nous réchantons ces merveilleux cantiques par lesquels l'homme de Dieu a fini tout à l'heure, j'aimerais que dans les 5 minutes qui suivent, prends la position qui te semble la meilleure. Ce matin, je lance pas un appel. Ce matin, j'aimerais que tu réclames les clauses de l'alliance. Ce matin, j'aimerais que tu te mettes à déclarer des choses. Déclare les choses attachées au Dieu de Philadelphie. Il s'est révélé à Éphèse d'une manière, il s'est révélé à Smyrne d'une manière, à Pergame d'une manière, mais à Philadelphie, il a promis de se révéler d'une certaine manière particulière. Pasteur Atom, si j'ai tendance à vouloir dire comme les prophètes, y a-t-il un joueur de harpe en ce jour? Et ces 5 minutes sont importantes. Capable.
Dieu est capable de faire ce qui va étonner.
Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.